Bonjour, nous sommes donc l'association Forum Tali à nous quatre et nous allons donc vous faire une petite conférence science-fiction et animation japonaise dans le cadre de Mangatan, juste avant le défilé de cosplay qui arrive juste après à 16h30 et la projection de Time of Eve à 18h en salle Dune. Donc avec moi, donc moi je suis Damien Bandrac, aussi connu sous le petit pseudonyme Damo parce que nous sommes des gens de l'internet donc nous aimons utiliser nos pseudonymes. Je suis accompagné d'Emmanuel, Emmanuel Bagot.
Oui, salut.
Donc tu es aussi connu sous le nom de Nemo.
Voilà, sur l'internet je suis connu sous le nom de Nemo ou Nemotaku, ça dépend.
Avec moi j'ai mon vice-président d'association qui est Bastien Auguste.
Bonjour, aussi connu sous le nom de Tsuchi mais personne ne le connaît parce que je ne fais pas grand chose mais je suis ravi d'être ici avec vous.
Et enfin un deuxième Emmanuel car deux vaut mieux qu'un, Emmanuel Salinesi.
Salinesi si tu préfères, ouais voilà parce qu'avoir deux personnes avec le même prénom c'est beaucoup plus simple. Et sinon, rien d'autre à rajouter.
D'accord, parfait. Donc on te connaît aussi sous le petit pseudonyme de Nock. Alors on va vous faire une conférence science-fiction animation japonaise. On a décidé d'avoir un axe plutôt pédagogique, plutôt essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir, que ça peut être des classiques ou des animés un peu plus obscurs. Pour cela, on a décidé de choisir 8 thèmes liés à la science-fiction. Et à chaque thème, on a choisi un animé en particulier sur lequel on va vous en parler. Donc ça peut être un film, une série télévisée, ou bien des OAV, mais ça je crois pas qu'on en ait dans notre réserve. Donc pour commencer, le premier thème par exemple, l'inspiration européenne, le premier des 8. Donc on a vu que la science-fiction japonaise aime bien s'inspirer parfois des grands classiques de la science-fiction européenne. Donc pour ça j'ai donné la parole à Emmanuel Nemo.
Oui, tout à fait. Alors, là, vous allez voir un des jeux, entre guillemets, de cette conférence. C'est-à-dire que pour chacun des thèmes, on a décidé de sélectionner quelques œuvres. On va en parler rapidement des 5 et on détaillera plus en profondeur une d'entre elles. Donc, pour l'inspiration européenne, on part du principe qu'en fait, il s'agit d'histoires, soit qui, comme le nom l'indique, s'inspirent directement d'un roman, soit ont une connotation quand même à un peu roman de science-fiction dont on parle régulièrement ici. L'œuvre dont on va approfondir, c'est Nadia, le secret de l'eau bleue.
Oui, très rapidement.
Oui, on va peut-être parler rapidement quand même des autres. Donc tout d'abord, Mungin Wakusai Survive. Là, c'est plus Nock qui pourra en parler, sur les deux premières.
Alors, Mungin Wakusai Survive, on est sur une série totalement dans l'esprit de Sa Majesté des Mouches, entre autres, ou Robinson Crusoe, avec une bande d'enfants, adolescents, qui se retrouvent échoués, écrasés sur une planète totalement inconnue.
Et donc oui, Gankutsu qui est une adaptation du conte de Monte Cristo,
oui, c'est-à-dire dans conte modernisé, ouais.
C'est voilà. Ça, une version science-fiction du conte de Monte Cristo qui reprend très bien l'histoire, mais avec des vaisseaux spatials et des robots géants en plus.
On a également retenu Fractal, assez rapidement, qui est une série où les êtres humains ont tout ce qu'il faut pour vivre grâce à un système qui s'appelle Fractal, mais le héros va tomber sur un problème, enfin sur une jeune fille qui va poser un problème au sein de ce système. C'est un animé qui a une grande histoire. On l'a retenu dans cette catégorie parce que elle fait un peu penser à ses romans d'aventure façon Jules Verne. Il y a également Le Château dans le Ciel, c'est pour l'anecdote. À la base, la série dont je vais parler tout à l'heure, c'est-à-dire Nadia, c'était une série qui a voulu être confiée à un petit réalisateur méconnu qui s'appelle Hayao Miyazaki, qui finalement a décidé de ne pas la faire et est parti faire Le Château dans le Ciel ou La Piuta en version japonaise. Et c'est pour ça que les deux séries se ressemblent énormément et que Nadia notamment contient des hommages à La Piuta.
Peut-être préciser sur La Piuta que c'est très inspiré des voyages de Gulliver.
Oui, et surtout et aussi du film le film d'animation Le Roi et l'Oiseau, qui est un chef-d'œuvre au passage.
Donc Nadia, le secret de l'eau bleue.
Donc Nadia, le secret de l'eau bleue, c'était un petit peu une évidence d'en parler aux Utopiales, déjà d'une part parce qu'on est à Nantes et que Nantes c'est la ville du musée Jules Verne et la ville de Jules Verne et que Nadia est une adaptation de 20 000 lieues sous les mers, c'est marqué directement dans le générique. Et d'autant plus aux Utopiales de cette année, vendredi matin sur cette scène, il y avait eu une conférence d'une heure sur le personnage de Nemo, personnage qui se retrouve dans cet animé. L'histoire de Nadia part d'un jeune garçon qui s'appelle Jean, qui est au centre de l'affiche, donc Jean Rock de Baltique, ça dépend des traductions, qui est un jeune français qui se rend à Paris pour un concours d'invention à l'occasion de l'exposition internationale de 1789.
1889, il n'y a pas d'exposition.
Voilà,
vraiment,
non, hein. Ils n'avaient pas vraiment le temps, 1789. En 1889, et qui va tomber sur une jeune, on suppose, africaine, qui s'appelle Nadia, qui travaille dans un cirque, et qui dispose d'un bijou. Ce bijou, c'est la Blue Water, l'eau bleue. Et elle est poursuivie par des méchants qui veulent capturer cette pierre. Et de cette rencontre entre ces deux personnages naît une aventure qui va les amener tout au long, tout autour de la Terre. Également, ils vont rencontrer le Nautilus du Capitaine Nemo. Il y a également des références un peu à l'île mystérieuse de Jules Verne. C'est vraiment une grande épopée d'aventure. Et qui a été diffusé entre autres, alors qu'il y a eu des multidiffusions à la télé française, il y a eu des versions censurées, c'est un petit peu compliqué. Ça a été diffusé originellement sur la 5 de Berlusconi, puis après TF1 qui ne l'a jamais diffusé complètement, puis après ça a été multi-rediffusé sur le satellite, sur AB1, puis Game One en a produit une version non censurée, et aujourd'hui l'animé a été diffusé sur No Life.
Très récemment, oui.
Très récemment, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un animé qui est un petit peu, je vais pas dire qu'il y a les utopiales dans son cœur, mais on est vraiment dans un événement qui correspond parfaitement à ce qu'est cet animé, c'est-à-dire une grande aventure, et ça correspond parfaitement. Je perds.
Tu perds tes notes. Voilà, tu disais que c'était une adaptation de 20 milieux sous les mers, mais évidemment, voilà. C'est pas une adaptation fidèle. Hein.
Non, c'est une adaptation très librement.
Très librement inspirée,
très
comme
librement
on dit.
Inspirée. D'ailleurs, les thèmes varient petit à petit. 20 milieux sous les mers se consacre plus au personnage du Capitaine Nemo, qui est certes un personnage très important, mais cette série, se consacre plus à la notion de science. Il y a la grande morale de l'histoire, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est une morale assez simple, mais c'est une aventure extrêmement bien faite. Alors ça a été réalisé par un studio pour qui c'est vraiment la première grande production télé qui s'appelle la Gainax, qui va être connue par la suite pour faire Evangelion, Gurren Lagann.
Gurren Lagann, Abenobashi, Pantheon Stocking. Voilà. Un studio qui sera très important dans les années 90, qui est là dans son premier gros projet, donc c'était Hideaki Anno, le réalisateur, qui a pété un peu un cap pendant la pression. Ça a donc donné Evangelion indirectement. Une bonne chose ou une mauvaise chose, je pense que c'est plutôt une bonne chose, même s'il a beaucoup souffert, le pauvre garçon. Que dire de plus,
c'est disponible en France depuis quelques mois dans une très belle édition chez Dybex. Et c'est vraiment un animé que je vous conseille de regarder. Je ne sais pas s'il sera rediffusé sur No Life, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une œuvre qui a vraiment Jules Verne au cœur et c'est un grand roman d'aventure que vous allez suivre. Simplement, c'est de l'animation japonaise. Mais ça a vraiment tout l'esprit et le cœur de ces grands romans d'aventure. C'est un peu une ode, c'est très humain comme série, voilà.
Oui, c'est très léger, très aventuresque. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose de recommandable à tous les publics et assez appréciable. On va passer au thème suivant, parmi les 8, la guerre. Science-fiction et guerre dans l'animation japonaise. On a donc choisi 4 animés en particulier qui parlent de guerre vaguement ou plus ou moins de manière importante. Très récemment, on a eu Alnoa Zero. La décennie précédente avec Code Geass, ces deux-là sont plutôt une version, on va dire, animée de guerre, mais la guerre très over the top, à l'américaine, des explosions, des rebondissements.
Très romancé.
Très romancé, donc c'est pas vraiment la guerre de vue manière très réaliste, c'est une version un peu fantasmée, un peu bizarre. Legend of the Galactic Heroes, une série d'OAV, de 108 OAV, 108 épisodes qui ont navigué de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, qui là s'intéresse beaucoup plus sur l'aspect, on va dire, géopolitique. Politique, stratégique, l'aspect le behind the scene de la guerre, quoi. Et on va surtout parler en fait de Mobile Suit Gundam. Alors pardonnez ma prononciation de l'anglais et du japonais qui est notoirement assez pourri, parce que Mobile Suit Gundam, alors peut-être qu'on dit Mobile Suit Gundam, ce qui est beaucoup mieux. Donc Mobile Suit Gundam, on connaît sans doute plus Gundam en tant que franchise. C'est vrai que c'est une série qui donc a été créée en 1979, qui nous fait maintenant 35 ans. Qui a ensuite évidemment donné naissance à de très 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 nombreuses séries, les Gundam Sin, Gundam X, Victory Gundam, G Gundam, Gundam Jin, Reconquista. Enfin bref, il y en a.
On va pas être exhaustif.
On est actuellement à 14 séries, je crois, pour Gundam.
Oui, et puis les films, les OAV, enfin bref, c'est une série très très fructueuse qui continue encore aujourd'hui à être particulièrement importante dans le paysage de l'animé japonais. Mobile Suit Gundam est très intéressant parce qu'à la base, effectivement, c'est la fondation du mythe de Gundam. Donc le scénario de Gundam, c'est, on va dire, plutôt simple, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où la colonie spatiale n'est plus quelque chose de finalement inaccessible. Beaucoup, beaucoup d'humains vivent désormais dans l'espace, dans les colonies, mais ces humains qui vivent dans les colonies sont assez frustrés de ne pas pouvoir avoir leur indépendance par rapport à la Terre, qui ici est représentée par une fédération, la Fédération Terrienne. Ils décident donc de déclarer leur indépendance, à la fois en se regroupant un peu sous la bannière du duché de Zéon, qui est un peu très, 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 très inspiré d'un parti fasciste qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 40. Donc ce duché de Zéon, donc il commence à faire la guerre, etc. Au bout d'un an de guerre, ils se disent bon, on va carrément balancer une colonie spatiale sur la Terre. Et là, à partir de là, les choses un peu s'accélèrent et par exemple, Sydney disparaît de la carte, ce qui est absolument tragique. Et pas mal d'autres choses. Donc dans ce contexte-là, on a un jeune héros qui s'appelle Amuro Ray et qui tombe sur un prototype de Gundam. Donc c'est un adolescent de 14 ans normal. On va voir au fur et à mesure de la série qu'il n'est pas si normal que ça. Il va donc se retrouver dans ce gigantesque Gundam, vite fait rejoindre l'armée de la Fédération Terrienne et particulièrement partager le quotidien de la White Base, qui est une sorte de vaisseau qui contient pas mal de néophytes et de novices de l'armée de la Fédération Terrienne. Et ils vont donc se retrouver un peu de bataille en bataille, un peu évoluer au fur et à mesure du bon vouloir de la Fédération Terrienne et avoir un rôle important dans la guerre entre la Fédération Terrienne et le duché de Zéon. Mobius Suit Gundam est très important puisqu'en fait, à la base, on dit bon, c'est Gundam, donc c'est la première série de Gundam, donc ça va être un carton absolument inimaginable, puisqu'aujourd'hui encore, on en parle tout de suite. Il faut savoir que Gundam a eu un début très très compliqué, puisque si la série se termine en janvier 1980, c'est qu'en fait, à la base, la série devait aller jusqu'en avril 1980, mais fin décembre, l'audience, la vente de figurines, etc., était clairement pas suffisante. Donc tous ceux qui ont demandé au studio Sunrise de faire Gundam ont dit stop, arrêtez tout. Donc ils ont réussi à vite fait négocier la possibilité de finir la série en 3 épisodes. Et à partir de là, Gundam était censé être mort et enterré. Mais à partir de ce moment-là, en fait, ce qui a sauvé la série, c'est la vente de figurines. C'est-à-dire qu'au Japon, on va dire l'animation japonaise, ils ont une vision, on va dire, très corporatiste. L'animation japonaise, elle est rarement là pour ne pas vous vendre quelque chose. Et ce qui explique beaucoup le succès des animés de robots dans les années 70-80, c'est qu'un animé de robot, on peut te vendre la figurine de robot derrière. Et Gundam ne remplissait pas cet objectif à la base. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient vendre les jouets Gundam aux enfants. Puis finalement, au moment des rediffusions, on se dit, bon, on va peut-être plutôt viser. Alors c'est Bandai qui a pris le relais à ce moment-là, donc Bandai qui est une marque de jouets assez internationalement connue. Et Bandai s'est dit, bon, finalement, on va plutôt marketer ça aux adolescents et aux jeunes adultes. Et là, soudainement, la sauce a prise. Aujourd'hui encore, du coup, les rediffusions ont eu des scores d'audience assez bien meilleurs que la publication originale. Ensuite, on a eu des films qui sont sortis au cinéma qui résumaient la série, qui résumaient en rajoutant une nouvelle fin, en rajoutant des scènes inédites. Et à partir de là, Gundam était lancé. À partir de là, on a eu la suite Zeta Gundam. Ensuite, on a eu double Zeta Gundam pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, on a eu les premiers univers alternatifs. Enfin, à partir de là, Gundam c'était devenu le truc un peu inévitable dans l'animation japonaise. Donc on retrouve à la réalisation Yoshiyuki Tomino, qui était à l'époque déjà un dépressif assez chronique. Et ça se ressent beaucoup dans Gundam, qui est vraiment la guerre, mais vue par des civils, vue par des soldats. Rarement, on voit souvent les dirigeants du duché de Zéon, mais c'est plus un aspect politique, puisqu'en fait on va beaucoup s'intéresser aux deux côtés. Duché de Zéon va être surtout représenté par un personnage emblématique qui est Charles Aznable, qui est un pilote masqué mystérieux nommé le Baron Rouge, qui est extrêmement bon sur le champ de bataille, qui possède une aura incomparable. Et on va beaucoup s'attarder sur ce personnage-là et son background qui est très intéressant, son scénario, son histoire. On va aussi s'intéresser à comment la Fédération Terrienne va retourner la situation à son avantage. Donc Gundam est un ouvrage qui, en plus d'être... il aura beaucoup, pas mal marqué. Les trois films sont tous les trois très intéressants et durent 2 heures chacun et résument pas mal la série pour de très très bonnes manières, on va dire. Donc Gundam a vraiment marqué à raison pas mal l'univers du Japon. Et c'est encore aujourd'hui, donc les trois films ont été édités en France par Biz chez nous en 2007-2008, c'est à peu près le seul moyen légal de se les procurer. Biz est mort il y a très récemment, donc je ne sais pas si aujourd'hui c'est assez facile de trouver les films Gundam originaux. La série originale est plutôt longue, et 44 épisodes, et aime bien s'allonger, on va dire. Donc les trois films sont plus préconisés, on va dire, pour découvrir l'univers Gundam. À partir de là, après, on peut aussi découvrir Gundam avec n'importe quelle autre série, puisque c'est aussi l'intérêt principal des Gundam. C'est que, par exemple, Gundam Seed, on peut garder ça tel quel, Gundam Age, Gundam, tous les... Enfin, dès que c'est pas une suite directe du Gundam original, on peut totalement prendre ça à part. Donc voilà, pour Gundam, on va ensuite passer au thème suivant, qui est le Space Opera.
Donc le space opéra, déjà, qu'est-ce que c'est à peu près le space opéra? Donc c'est un terme qui est né plutôt dans les années 40, qui a été beaucoup beaucoup revu ensuite. Il a été revu dans les années 60-70 et après, là où il a pris une aura de pop culture, là où il a été affilié très rapidement à la pop culture, notamment on a eu ça grâce à des œuvres qui sont Star Wars, Star Trek. Il a acquis sa légitimité seulement dans les années 90. Donc par exemple Star Wars, Star Trek sont des œuvres qui ont eu ce terme de space opéra collé à eux seulement bien après leur première diffusion. Et donc voilà. Comment se caractérise le space opéra? Donc ça se caractérise notamment beaucoup par donc une aventure spatiale. Donc il y a plusieurs adjectifs qui reviennent parmi les personnes qui ont défini le space opéra. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt coloré, dramatique, une aventure de science-fiction de grande envergure, qui va être plutôt bien écrite, tout centré sur quelques personnages. Donc ça va vraiment souvent être des épopées où on va suivre un tout petit groupe de personnages qui va donc vivre une grande aventure à travers l'espace. Donc on a plusieurs animés qui correspondent pas mal à ces thématiques. Donc on a pas mal d'animés des années 70-80. Donc on va retrouver notamment Uchu Senkan Yamato, qui a encore aujourd'hui reçu une nouvelle adaptation il n'y a pas longtemps. Il y a encore des films qui sont diffusés. Macross, qui aura bientôt encore une nouvelle série en 2015, si je ne me trompe pas. Albator, qui a la réputation qu'on lui connaît ici en Occident. Ou encore, plus récemment, dans le début des années 2010, Moretsu Pirates. Et donc, on va parler plus spécifiquement de Cowboy Bebop.
Alors, juste pour dire, le film Albator a d'ailleurs été diffusé l'année dernière ici, aux Utopiales.
Aux Utopiales, l'année
dernière. C'était une adaptation, mais que, voilà. Ce qui prouve encore que le Space Opera, notamment cette marque-là, est très... Ce personnage-là est encore...
Parce que Albator est un personnage très ancré dans les esprits, non seulement de par les séries, donc Albator, donc Captain Harlock, et aussi de par ses nombreuses apparitions dans les autres œuvres donc, du réalisateur, qui est Leiji Matsumoto, comme Galaxy Express 999, etc.
C'est l'auteur des mangas originaux, c'est pas le réalisateur.
Aussi, pardon. Et donc... Donc on va retrouver Cowboy Bebop. Donc Cowboy Bebop, c'est un animé qui a été diffusé donc d'avril 98 à avril 99 donc au Japon. Donc réalisé par un petit studio qui s'appelle Sunrise qu'on a évoqué tout à l'heure notamment pour Mobile Suit Gundam qu'on connaît encore aujourd'hui. Il fait d'autres animés comme par exemple Aikatsu, etc.
Surtout les Gundam toujours.
Hein. Surtout les Gundam encore qui est bien connu. Mais donc c'est un studio qui continue de vivre, qui est encore prolifique, et donc est réalisé par Shinichiro Watanabe. Watanabe qu'on connaît bien, que vous connaissez peut-être pour d'autres œuvres qui sont notamment Samurai Champloo en 2004,
Sakumachi no Apollon en 2012, Sakimichi
no Apollon,
Space Dandy et Terror in Resonance cette année.
Voilà, et plus bizarrement, Cowboy Bebop le film aussi.
Mais également Cowboy Bebop le film. À noter aussi donc un point qui va être plus ou moins important, c'est que justement. Cowboy Bebop a été réalisé par Shinichiro Watanabe et la musique a été faite par Yoko Kanno et on retrouve ce duo qui dans Kids on the Slope, Sakamichi no Apollon qui revient car justement c'est un duo qui a très bien marché.
Du coup, Cowboy Bebop
et dans Zankyo no Terror également.
Cowboy Bebop, de quoi ça parle ?
Alors Cowboy Bebop, de quoi ça parle ? Donc pour faire simple, on va suivre donc un groupe de quelques chasseurs de primes qui vont donc vivre toute une aventure épisodique. En général, un nouvel épisode égale une nouvelle aventure, une nouvelle proie à chasser, tout simplement.
À chaque fois, souvent aussi une ambiance différente. Certains s'inspireront du polar, d'autres du western, enfin pas mal de différences, assez toujours appréciables.
Voilà. Justement, on va avoir à chaque fois une nouvelle aventure qui va se dérouler pour nos héros. On aura toujours une trame de fond générale qui est le fait que ces héros veulent vivre, manger, etc. Et on va aussi découvrir un petit peu le passé de chacun de ces personnages qui a chacun un passé un petit peu obscur, un petit peu houleux. On va découvrir donc ces personnages au fil de leurs aventures. Ils vont rencontrer d'autres personnages, etc.
Donc chaque personnage est un archétype bien précis. On a donc Spike, un peu le héros.
Le héros cool.
Le héros cool.
Qui se laisse un petit peu aller.
Maffei, la femme fatale. Ed, le génie de l'informatique.
La génie.
Et Jet, la brute au cœur d'or, ainsi que le chien ultra intelligent.
Ayn, qui est fruit d'expérience scientifique.
Mais de façon générale, Cowboy Bebop cadre vachement à la fois ses personnages et ses univers, mais même ses épisodes, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui pourraient quasiment être considérés comme des courts-métrages.
Voilà, en eux-mêmes. Justement, j'en viens un petit peu. Donc. Pourquoi est-ce qu'on peut donner son titre de Space Opera à Cowboy Bebop ? C'est aussi parce que au début donc de la naissance du terme, donc dans les années 40, le terme de Space Opera a été un petit peu vulgarisé comme étant un sous-genre du Horse Opera, qui était tout simplement les westerns. Et donc, en gros, le Space Opera, c'était du western avec des vaisseaux spatiaux, tout simplement. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Cowboy Bebop, aussi dans Trigun. C'est-à-dire, on va retrouver donc cette ambiance de western grâce à... Il y a Cowboy dans le titre. Et justement, une des marques principales de la série, c'est son anachronie. On ne sait jamais exactement dans quelle période on ne sait jamais exactement où nous sommes, puisque les aventures peuvent se dérouler dans n'importe quel endroit du système solaire. On peut se retrouver sur Mars ou sur Vénus dans le même épisode. Chaque planète va avoir son propre mode de fonctionnement, sa propre ambiance, etc. Et justement, cette anachronie se retrouve tout le temps dans Cowboy Bebop. Notamment grâce à la musique de Yoko Kanno qui joue beaucoup avec cela. Oui, et donc c'est aussi pour ça que ce terme donc, de horse opéra, space opéra, donc, date des années 40, tout comme la naissance du genre musical qui est le bebop, qui est donc un genre de jazz, né lui aussi dans les années 40. Donc malgré le fait qu'on soit dans un futur proche, qu'on n'arrive pas facilement à évaluer, on ne sait jamais exactement où nous sommes, et on retrouve toujours des mémoires du passé, donc la musique jazzy, des revolvers, ou encore tout simplement donc des choses qui sont encore affiliées à notre planète actuellement, donc la mafia.
Alors il y a tout un épisode par exemple, etc., qui repose sur la Betamax. Ouais. Les personnages trouvent une cassette de Betamax, sauf qu'ils n'arrivent pas à trouver comment on lit une cassette de Betamax. Donc, ils ont absolument besoin de trouver un lecteur de Betamax dans le système solaire, et ils galèrent là-dessus. Le Betamax, pour anecdote, c'était ce qui devait être c'est l'adversaire du VHS par Sony, et qui a complètement bidé. Et tout un épisode repose là-dessus. Il y a un épisode également où on a par exemple un caméo de la navette Columbia. Enfin, c'est pas mal de choses comme ça, pas mal de petits mélanges de genres, pas mal de petits changements d'ambiance qui sont toujours très bienvenus.
Voilà. Toujours des petits clins d'œil donc à notre monde réel, celui que nous connaissons, et enfin surtout celui de l'époque, donc de la fin des années 90.
Et puis même, tu as un personnage secondaire qui, à un moment donné, dans un épisode, est fan des séries des années 2000. C'est un peu comme si aujourd'hui, il y a des fans de séries de la télévision des années 50-60, bah lui, il est fan des années 2000.
On a fait un peu le tour pour Cowboy Bebop.
Bah du coup, voilà, donc c'est un anime vraiment qu'on vous recommande. C'est une très belle aventure. On suit des personnages plutôt charismatiques. Voilà. C'est très bien réalisé, c'est très agréable. Et c'est disponible chez nous, chez D-Bex.
Oui, c'est assez connu parce que ça avait été diffusé sur Canal Plus à la fin des années 90. Et même encore aujourd'hui, je crois que ça passe pas mal sur manga, par exemple. Donc c'est une série qui est vraiment. Tous ceux qui l'ont vu souvent adorent. Donc c'est souvent bon signe.
Tout le monde aime.
Donc, on va te laisser la place pour maintenant la tranche de vie. Voilà. Science-fiction et tranche de vie.
Science-fiction, tranche de vie. Alors déjà, petite explication, la tranche de vie, c'est plus un procédé narratif qui consiste à suivre les personnages dans leur vie quotidienne plutôt qu'à les suivre dans de l'action retentissante. Alors ça se retrouve évidemment beaucoup dans l'animation japonaise, et la science-fiction avait aucune raison d'être épargnée. Et par exemple, une série comme Eureka 7, qui est une série de mecha, utilise beaucoup ce procédé pour faire vivre ces personnages, leur donner de la consistance.
Pour nous aider à nous y attacher.
C'est ça. Et de la même manière, des séries comme Deno Coil ou Gunslinger Girl utilisent pas mal la tranche de vie.
Mais sans que ce soit des animés de tranche de vie.
Sans que ça soit des animés de tranche de vie. C'est ça. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est la tranche de vie quand ça devient un genre. C'est-à-dire les séries qui se focalisent à 100% sur la vie des personnages. Alors, par exemple, il y a une comédie assez hilarante qui s'appelle Nia Under Seven. Mais là, on va parler de Aria. Alors c'est un peu particulier. Déjà à la base, c'est un manga d'Amano Kozue qui est sorti en 2001. Ça s'appelait Aqua. Ça a duré un an, et puis au bout d'un an, l'éditeur a décidé de le changer de magazine de prépublication. Et à ce moment-là, la série est devenue Aria. Et entre 2002 et la fin en 2008, il y a eu 12 volumes qui sont sortis. Et en 2005, 2006, 2008, il y a eu trois séries animées qui adaptent ce manga et qui sont réalisées par Junichi Sato, qu'on connaît pour son poste de réalisateur de Sailor Moon. Il a aussi travaillé sur Magical Doremi ou Princess Tutu, des trucs de Magical Girl, quoi.
Donc là, il n'y a pas de Magical Girl du tout.
Non, Aria, c'est pas du tout Magical Girl. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Aria, on pourrait dire que ça commence au 22e siècle, quand l'humanité décide de terraformer Mars. Sauf que ça se passe pas comme prévu, et les calottes polaires martiennes fondent beaucoup plus que ce qui était initialement prévu, et la planète se retrouve recouverte à 90% d'eau. Wow. Donc, à ce moment-là, elle est surnommée Aqua, donc d'où le titre original du manga. Et sur la planète Aqua, il y a une ville qui s'appelle Neo-Venezia, qui est une réplique de la Venise terrienne. Et dans Neo Venezia, on va suivre les aventures d'Akari, qui est une jeune terrienne qui est venue sur cette planète pour devenir une ondine, c'est-à-dire une gondolière. Voilà, c'est les aventures d'Aria, c'est la vie quotidienne d'une gondolière dans un univers de science-fiction. Et ça paraît peu comme ça, mais c'est pas parce que c'est pas spectaculaire qu'il ne s'y passe rien. Je pourrais citer l'interview d'une des comédiennes de doublage de la série qui disait « Il se passe pas grand-chose, mais toujours d'une bonne manière ».
C'est surtout une série où il y a pas mal de bons sentiments. C'est-à-dire que c'est pas une série où, par exemple, il y a des méchants, il n'y a pas de vrai scénario.
Ah oui, non, il n'y a pas de méchants dans Aria, ça c'est sûr. Par contre, il y a beaucoup de personnages qui sont adorables, et Akari, qui est l'héroïne, est totalement à ce niveau-là. Et alors, elle apporte deux choses. Elle apporte beaucoup de curiosité, ce qui fait qu'avec elle, en la suivant dans son quotidien, on va découvrir un univers qui se révèle assez intéressant, assez fascinant, et beaucoup de personnages qui sont aussi très intéressants.
Oui, parce qu'en fait, le vrai héros de la ville, c'est un peu Neo Venezia, c'est-à-dire qu'on va explorer cette ville, on va découvrir ces petits recoins cachés, ces habitants un peu excentriques parfois, ou
c'est totalement ça. Et puis donc Akari apporte un autre truc extraordinaire à cette série, c'est son humeur qui est super contagieuse, ce qui fait que comme elle est souvent très très de bonne humeur, c'est le stéréotype de la Genki Girl, on appelle ça, et avec elle en fait on est toujours devant cette série plutôt, avec un grand sourire béat sur le visage, parce que c'est super agréable à suivre. Et alors, il se passe effectivement pas grand-chose, mais oui, toujours d'une bonne manière.
Et puis les personnages évoluent au fur et à mesure, on les voit avancer dans leur formation pour devenir Ondine. Ils ont un but à se fixer, c'est assez intéressant.
Voilà, parce que la série s'étale sur plusieurs années, en fait. Et par contre, des fois, c'est souvent très amusant, mais des fois, ça devient très émouvant, très touchant. Et comme le personnage a une humeur très contagieuse, on se met aussi à pleurer devant parce que oui, ça marche super bien. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et il y a un dernier point qui est très fascinant, c'est la ville de Neo Venezia. Comme tu le disais, c'est un peu l'héroïne. Et c'est cette ville a ses mystères. Et quand la série décide d'explorer ses mystères, on passe sur du registre fantastique. Sur une inquiétante étrangeté, comme appelaient ça les surréalistes, et c'est vraiment une facette passionnante d'une série qui avait a priori l'air banale et qui se révèle pas banale du tout. Aria, ça a pas révolutionné l'animation japonaise, mais c'est considéré comme un des grands noms de la tranche de vie, et c'est sûr que effectivement c'est un des grands noms de la tranche de vie.
Et la troisième saison est visuellement assez sublime, avec vraiment un gros travail sur les décors, un travail sur les couleurs, etc. On passe vraiment du très bon temps, uniquement en France. Alors on ne sait pas pour quelle raison, mais uniquement la troisième saison est sortie chez nous. Alors, c'est une idée comme une autre de visualiser le business, mais
l'éditeur du manga a fait faillite. Alors il y a que 7 ou 8 volumes qui sont sortis, et la série animée, il y a que la troisième qui est disponible en France, ce qui est assez dommage pour quelque chose de cette qualité.
Alors on va passer ensuite au concept de dystopie, un concept assez riche à la science-fiction générale. Donc la dystopie, rapidement, pour caricaturer rapidement, c'est tout simplement une utopie, donc un monde parfait mais qui a mal tourné. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde qui, d'apparence, c'est vraiment super cool, vraiment tout le monde a l'air super gentil, enfin tout le monde a l'air super serein, super paisible, il n'y a pas de crime, il n'y a rien. Mais quand on retourne un peu, quand on creuse un peu, on se rend compte que si c'est aussi calme, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits et que c'est pas souvent à l'avantage de ceux qui y vivent. Donc on pense évidemment à des grands classiques de la littérature comme 1984 ou Le meilleur des mondes. Alors niveau dystopie en animation japonaise, il y a beaucoup de... Enfin, il y en a finalement peu, mais c'est souvent des grands titres. Alors Akira et Jinro, qui sont deux films de la fin des années 80, milieu des années 90 pour Jinro, fin des années 80 pour Akira, qui sont deux films qui ont beaucoup marqué... Akira a beaucoup, beaucoup marqué une grande génération de passionnés, parce que c'est souvent cité comme un des premiers contacts avec l'animation japonaise, parce que c'est arrivé chez nous assez facilement, on va dire, par rapport au reste de son époque. Jinro eux-mêmes, c'est un film, alors pas forcément les 5 qui sont conseillés là sont pas forcément conseillés à un public jeune. Attendez d'avoir au moins 15 ans pour le regarder, parce que sinon ça
peut choquer.
Il y a souvent des scènes qui sont un peu difficiles.
Disons que c'est un peu sanguinolent, quoi.
Un peu sanguinolent, et souvent psychologiquement on sent un peu mal. Trigun, Baptiste, tu peux en parler un peu. Bastien, tu peux en parler un peu plus facilement. Désolé, je t'appelle toujours Baptiste.
Il n'y a pas de souci. Trigun, on peut en parler notamment dans le contexte de dystopie, puisqu'on parle d'une société qui veut s'exporter, qui veut justement fuir la planète Terre, qui est devenue invivable, et qui au terme du crash d'une des colonies, en vient essayer de recréer une société, mais qui a donc normalement tout ce qu'il lui faut pour réussir. Elle a un monde nouveau, elle peut repartir sur de très bonnes bases, mais qui échoue totalement et qui se retrouve dans un monde rude et totalement archaïque.
C'est ça, c'est un western dystopie. Ensuite, on a Shinsekai Yori, qui a quelque chose d'assez récent, qui raconte là à nouveau un futur lointain où les humains ont acquis des pouvoirs psychiques et vivent désormais dans des communautés très recluses, des communautés très sereines, mais étrangement, les enfants disparaissent souvent, et ça cache souvent un des plus gros secrets de cette série qui n'est pas disponible en France, hélas. Ça nous a fait privilégier Psycho-Pass, qui est une série très récente, puisqu'effectivement sa diffusion a commencé en octobre 2012. Une seconde saison a commencé très très récemment, au début de ce mois-ci au Japon. Donc Psychopass raconte, alors on est en 2112, alors sans doute une référence à l'album de Rush 2112 qui lui-même racontait une dystopie anti-musique. Donc on est en 2112 dans un Japon qui s'est complètement isolé du reste du monde, c'est-à-dire qu'ils ont fermé toutes leurs frontières, ils ont fermé leurs clés, etc. Plus personne ne peut en entrer, plus personne ne peut en sortir. Et à partir de là, une IA nommée Civil contrôle tout le pays, contrôle tous les habitants. Tous les habitants, dès le début, sont fichés, sont contrôlés par des capteurs et des caméras quotidiennement. Alors ça a ses avantages, puisque les habitants, du coup, sont assez guidés, ils ont une vie très facile. Avec juste tes résultats à l'école, on te file automatiquement un boulot à la sortie. En fonction de tes résultats, évidemment. Ce boulot que tu vas garder toute ta vie, t'as pas forcément beaucoup à suivre, pas beaucoup à t'inquiéter du chômage, pas beaucoup à t'inquiéter de ton loyer, puisque tes logements sont quasiment offerts. Bref, c'est un monde plutôt cool. Sauf que, évidemment, ça, c'est pas si cool que ça. On suit dans cette aventure, dans cet univers, on suit Tsunemori Akane, qui est une inspectrice. Une inspectrice, en l'occurrence, de la police locale. Et en fait, tous les habitants sont contrôlés via leur psychopass. Leur psychopathe, en fait, tout simplement contrôle le niveau de stress, de sanité, de réflexion. C'est-à-dire que dès que tu connais une mauvaise, dès que tu te sens mal, ton psychopathe s'augmente peu à peu. Et plus tu perds pied, plus tu perds ta sanité, plus ça monte à des niveaux dangereux. Au bout d'un moment, on te demandera automatiquement d'aller à une thérapie. On te viendra te chercher, on t'ira en thérapie. Alors, peu de gens en reviennent, mais ceux qui en reviennent sont sauvés, temporairement ou permanent, on ne sait pas. Et si jamais c'est vraiment, vraiment trop haut, il n'y a pas d'autre choix que de t'éliminer sur place via un pistolet nommé le Dominator qui ne fait pas les choses de moitié puisqu'il t'implose de l'intérieur. C'est pas forcément super propre.
Ou te paralyse.
Donc pas pour les enfants du coup.
Donc pas pour les enfants du tout parce que du coup, je vais pas vous spoiler, mais il y a des gens qui meurent de manière super gore. Enfin, de manière super gore, oui, c'est plutôt graphique. Mais c'est pas le principal intérêt de la série, parce que finalement ces exécutions sont plutôt rares. On s'intéresse plutôt au personnage d'Akane, qui est donc inspectrice, qui arrive, qui est pile poil envoyée déjà direct sur une affaire de prise d'otage pour un mec qui a pété les plombs et qui a pris une femme en otage, et va tout de suite constater à quel point la société actuelle a ses failles, puisque par exemple la fille qui est prise en otage a tellement stressé, tellement paniqué qu'elle aussi du coup doit être exécutée à cause de son niveau de stress. Et à partir de là, ça va devenir compliqué pour elle. En tant qu'inspectrice, elle est accompagnée de personnages nommés les enforceurs. Les enforceurs sont des personnes qui ont dépassé leur psychopathe mais qui aident les inspecteurs pour les soulager en stress. C'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent des trucs les plus sales pour pas que les inspecteurs soient stressés, parce que de base c'est un peu idiot. Si les inspecteurs sont obligés de tuer des gens, bah forcément ça va impacter leur psychologie, et forcément eux-mêmes vont devoir au bout d'un moment faire face à des thérapies ou bien à la prison. Donc ça serait un peu idiot, ça serait un peu le serpent qui se mange la queue, ça serait un peu idiot. Donc tout l'intérêt de Psychopass va être tout simplement de voir comment cette société va évoluer, comment les personnages, le personnage d'Akane, donc du coup va apprendre à devenir critique vis-à-vis de cette société, et va apprendre à comprendre comment la contourner ses règles sans vraiment totalement la trahir. C'est-à-dire qu'en fait c'est un animé qui est très ambigu. C'est-à-dire qu'il ne vous dira jamais clairement si cette société par Sibyl est bien ou pas. Il vous laissera faire votre choix. Alors, toute la seconde partie de la saison repose en fait sur un antagoniste qui en fait veut détruire cette société, veut rendre le Japon tel qu'il était avant, veut dire libre avec les émotions qui ne sont pas réprimées, etc. Et c'est très intéressant parce que du coup, les gentils, enfin les Akane, ces enforceurs, eh ben, sont les méchants, seraient les méchants dans 1984 par exemple. Ça serait eux qui combattraient cet anarchiste libérateur. Après, cet anarchiste a des méthodes qui sont très contestables, mais jamais l'animé vous dit clairement « Eh, c'est vraiment le méchant !» Et jamais l'animé vous dit « Eh, c'est vraiment les gentils, ceux-là !» Et c'est très intéressant de voir comment se goupille ça. Alors, c'est écrit par Urobushi Gen, que vous connaissez peut-être pour Fate Zero ou Puella Magi Madoka Magica, qui sont deux animés qui ont pas mal marqué le début des années 2010. À la fois pour leur cruauté et pour leur manière d'utiliser des codes et de les mettre de manière un peu, on va dire, sanguinolente. Et c'est un animé donc qui se regarde vraiment de manière marathon. Alors techniquement c'est pas toujours très bon, mais c'est un animé qui a pas mal de bonnes idées, qui a de bonnes références, de bonnes inspirations, et qui arrive à proposer, on va dire, un modèle un peu neuf, une vision un peu japonaise de la dystopie qu'on n'avait pas vraiment avant. Donc voilà, c'était Psychopass.
Sinon au niveau dystopie, et qui ressemble un peu en termes de société, c'est un manga qui a une certaine popularité en, oui, France, qui est Ikigami. Qui, en fait, là où Psychopass se base sur un niveau de stress, etc., pour juger les individus, Ikigami joue sur la chance, puisque en fait c'est un certain pourcentage d'une génération qui va être exécutée pour apprendre aux autres l'importance de la vie. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ça ressemble en tout cas dans le concept à ce qui vient d'être présenté.
On va aller un peu plus vite pour le reste. On va D'accord. parler des univers virtuels.
Alors les univers virtuels, c'est une catégorie où en fait là on quitte du coup le monde réel et on se base sur des personnages qui sont enfermés dans des mondes qui sont créés numériquement. Donc typiquement on pense aux jeux vidéo. Parmi les choix là qu'on a retenu, on a retenu Lane. Donc Lane, on va pas en parler du tout parce que là il faudrait que les Utopiales nous donnent une autre conférence, oui. je pense complète, pour pouvoir aborder Lane, ne serait-ce qu'un petit peu.
Il nous faudrait 2 ans pour qu'on le re-regarde 400 fois et qu'on comprenne ce qui se passe.
Voilà, et déjà se dire que ça a 15 ans, que c'est absolument hallucinant. Oui.
C'est toujours très d'actualité. Ouais.
C'est très, très d'avant-garde, en tout cas en ce qui concerne les problématiques liées à l'existence numérique.
Les 3 autres sont très semblables.
Voilà, les 3 autres sont très semblables puisque ce sont des personnages qui sont enfermés dans un MMO. On va pas prendre Sword Art Online ou DotAxine puisque c'est plus une... On va dire Sword Art Online est une aventure assez classique, c'est une épopée où avec un héros, un objectif final qui est de survivre, mais voilà, c'est assez simple. NiAxine qui est un projet transmédia un peu plus complexe, mais on va s'intéresser donc à Log Horizon. Alors Log Horizon, c'est un
très récent à nouveau aussi.
Voilà, c'est un animé très récent et qui a comme caractéristique, outre d'avoir un générique qui est hyper catchy, d'avoir une problématique assez particulière. C'est-à-dire que là, je vous ai dit dans Sword Art Online, le principe c'est que les héros sont enfermés dans un monde virtuel et essaient d'en sortir. Dans Log Horizon, ils prennent la question un petit peu différemment. C'est-à-dire, ils se demandent qu'est-ce qui se passerait si jamais ces gens savaient qu'ils étaient en quelque sorte. Enfin, ils savent pas quand est-ce qu'ils pourront sortir de ce jeu vidéo. Donc, ils décident d'organiser une nouvelle société. Sauf qu'ils se trouvent dans un monde dont ils ne maîtrisent qu'à moitié les règles. Si vous avez déjà joué à un MMO, si vous avez déjà joué à un jeu vidéo, vous savez qu'un jeu vidéo, ça a des règles spécifiques qui définissent son univers. Par exemple, si vous tuez un monstre, vous obtiendrez un objet ou des pièces. Et bien ça, il faut savoir que c'est une règle de vie courante dans le monde de Log Horizon.
Et contrairement à Sword Art Online .hack, si tu meurs, tu ne meurs pas pour de vrai.
Voilà, c'est ça.
Très important.
Si tu meurs, il y a quand même une petite conséquence au bout d'un moment, mais grosso modo, tu vas renaître à l'église et puis voilà, ton personnage sera toujours là. Il y a toujours un système de niveau, mais c'est vraiment pas ça qui fait la finesse du monde de Log Horizon. Ce qui fait la finesse, c'est vraiment la façon dont la société va s'organiser. On se concentre sur un groupe de personnages dont le plus fort n'est ni le plus balèze, ni le plus discret, etc. C'est le stratège. Parce que tout cet animé est basé sur le fait, sur des négociations entre personnes, sur la création véritablement d'une petite société avec ses règles et ses valeurs propres. Je vous disais qu'on maîtrise vraiment qu'à 50% les règles de cette société parce que, par exemple, dans un jeu vidéo, ça vous semble naturel de pouvoir parler en privé à quelqu'un. Or, dans la vie, si je veux parler à quelqu'un du public, je suis obligé d'aller là-bas et d'aller lui parler discrètement. Là, je pourrais le faire par télépathie, en quelque sorte. Donc voilà, on est vraiment...
Semblable au chat des MMORPG.
Voilà, semblable au chat des MMORPG. Donc là, on est vraiment dans un univers, dans un animé qui se pose des questions souvent de façon décalée par rapport au reste de la production. C'est voilà, comment survivre dans un monde où on ne maîtrise pas tout, ou en tout cas, on ne fait que découvrir. Ils vont mettre, par exemple, beaucoup de temps à découvrir comment faire de la nourriture. Concrètement, la nourriture là-bas, si elle n'est pas cuisinée d'une certaine façon, tout a le goût de l'eau et des biscuits secs. Donc, on peut prendre n'importe quoi, tout a le même goût. Donc, ils vont essayer de comprendre petit à petit les règles qui sont dans ce monde. Ils vont s'apercevoir que ce qui est d'habitude négligeable, c'est-à-dire les personnages non-joueurs auxquels on parle très rapidement, eh ben, en fait, ce sont des gens qui ont une vie propre. Et voilà, donc c'est vraiment... Ça remet en question beaucoup de choses, ça remet une nouvelle société en place et c'est passionnant de voir comment cette société va se construire et comment les personnages vont évoluer à partir de là.
Ça
prend un tour très politique.
Donc Log Horizon, la première saison qui est simulcastée chez nous chez ADN, et la seconde saison également qui a commencé elle aussi en début de mois. Ensuite, Android et intelligence artificielle, je me tourne vers l'autre Emmanuel, celui de droite.
Alors voilà, là on va parler robots, en sachant qu'il faut se méfier parce que les animés de robots, généralement, on pense aux animés de mecha, donc les gros robots pilotés. Mais donc là, non, c'est vraiment les androïdes. Et c'est une histoire, les androïdes, le manga, l'animation japonaise, c'est une longue vie commune, on va dire, vu que ça commence au début des années 50 avec un manga dessiné par Tezuka et un héros très célèbre qui s'appelle Tetsuwan Atom ou tout simplement Astro Boy et qui est un des personnages pionniers de l'histoire du manga, un des premiers grands héros et aussi de l'histoire de l'animation parce qu'en 1963, la série Astro Boy, c'est la première série animée diffusée à la télévision japonaise. Et donc depuis les années 50-60, le Japon a beaucoup progressé dans le domaine de la robotique. Et en parallèle, il y a le thème des androïdes se retrouve beaucoup dans les mangas, les séries animées. Alors là, quelques exemples, des choses un peu mignonnes comme Kowarikake no Orgel ou Chobits. des choses plus sombres comme Ergo Proxy. J'avais pensé aussi à des choses un peu touchantes comme Otoli.
Des trucs plus connus comme Ghost in the Shell aussi.
Ghost in the Shell, ou alors un manga qui est plutôt, qui est une réécriture moderne d'une des aventures d'Astro Boy, qui est un polar assez intéressant. Et puis il y a un film assez intéressant qui s'appelle Time of Eve, et comme on est opportuniste, on en parle un peu parce qu'il est projeté à 18h ce soir en salle d'une. Et qui est, on en revient un peu sur la tranche de vie comme j'en parlais tout à l'heure. Alors c'est une série, à la base une série diffusée sur le net entre 2008 et 2009, réalisée par
Yoshiura Yasuhiro.
Merci, qui est le réalisateur.
Moi j'ai la sous les yeux, c'est plus simple.
Voilà, c'est plus simple. Moi mes notes sont illisibles, mais c'est le réalisateur du récent Patema et Le Monde Inversé. Et donc cette série va rencontrer pas mal de succès pendant sa diffusion, si bien que l'équipe a décidé d'en faire un film diffusé en mars 2010 dans les cinémas japonais, qui est à peu près une compilation de la série. Il y a quelques scènes en moins, quelques scènes en plus, un générique de fin qui est absolument superbe. Et plus spécifiquement, donc
Time of... le scénario, ça... de quoi ça parle?
Alors, que raconte Time of Eve? J'y venais, justement. Alors, ça se passe vraisemblablement au Japon, dans un futur plus ou moins proche, où la robotique s'est beaucoup développée. Et les androïdes ressemblent de plus en plus à des humains, aussi bien au niveau physiquement qu'au niveau du comportement. La seule chose qui les différencie, c'est un halo lumineux qui flotte au-dessus de leur tête. Et les humains sont encouragés à considérer les androïdes comme des simples meubles et surtout pas des créatures vivantes, parce que les comportements trop affectueux vis-à-vis des androïdes sont considérés comme déviants. Par exemple, des histoires d'amour entre androïdes et humains, non mais quelle horreur, quelle hérésie. Et dans ce futur plus ou moins proche, on va suivre Rikuo, un lycéen qui a une androïde domestique qui s'appelle Sami. Et un jour, en consultant le journal interne de cet androïde, va découvrir une phrase mystérieuse « Appréciez-vous le Time of Eve ?» Et il va se poser quelques questions. Et avec son ami Masaaki, ils vont un jour suivre Sami et se retrouver dans un café qui s'appelle le Time of Eve, et qui est un café qui pratique une règle simple, c'est toute forme de discrimination entre robots et humains est interdite. Les androïdes désactivent leur halo, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus distinguer qui est humain, qui est robot. Oui, c'est ça.
Et à partir de là, pour éviter toute hiérarchisation, on va dire ça. Tout a priori, genre, je vais parler à celui-là, il est androïde, donc je vais automatiquement prendre un comportement, alors que là, non, tout
c'est
est...
Ça.
Tout
et
monde
il, revient, est, il est interdit de demander à une personne si elle est humaine ou androïde, à moins que cette personne ait envie de vraiment vous le dire. Ce qui fait que pendant tout ce film, on va découvrir avec Rikuo, au fur et à mesure de ses visites, tout le petit monde qui peuple ce café. Ça va du sympathique grand-père et sa petite-fille qui se prend pour un chat, à un couple d'amoureux, il y a la tenancière, fort sympathique également, enfin une adolescente énergique. Et ces gens-là vont se découvrir petit à petit à travers les conversations, à travers leur façon d'être, et puis à travers aussi ce qui est laissé à l'imagination du spectateur. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver face à quelque chose, un monde clos assez touchant, parfois assez amusant aussi sur certaines scènes, qui a l'avantage d'être assez bien fichu, les transitions sont bien maîtrisées, et en partant d'un concept tout simple mais intéressant, on arrive vraiment à un grand film, quoi. Donc je vous encourage vraiment à aller le voir après le cosplay tout à l'heure, en espérant que vous apprécierez aussi le Time of Eve.
Un très bon moment à passer en soi.
On va aller très rapidement sur la dernière partie. On est un peu limité niveau temps.
Très rapidement, mais ça peut encore aller.
Temporel.
Voilà, bah, c'est bien.
On va bien retourner 5 minutes en arrière, comme ça on aura un peu plus de temps peut-être.
On va venir avant pour prendre notre place. Bref, donc le voyage temporel, ce qui est très intéressant à dire en soi sur le voyage temporel dans l'animation japonaise, en soi, c'est qu'en général, le voyage temporel n'est jamais, n'est que très rarement au centre d'une intrigue. Oui. Il est souvent plus souvent vecteur juste de l'histoire et permet justement plus de liberté sur un scénario et permet plus d'apporter quelque chose pour le développement des personnages. Justement, dans les exemples qu'on a ici, donc quelque chose qui est à l'inverse de ce que je viens de dire, c'est Steins Gate qui justement a comme thématique principale le voyage dans le temps et qui va le développer. Mais justement, c'est un cas qui est assez particulier, alors que justement dans ce Tatami Galaxy ou Noine, le voyage dans le temps va être beaucoup plus en retrait, même s'il est toujours présent dans l'intrigue. Il ne sera que pour des moments clés, que pour des points d'orgue, mais il sera là avant tout pour le développement, et notamment ça se remarque beaucoup dans le film que nous allons aborder, qui est La Traversée du Temps ou Toki wa Kakeru Shoujo. Donc La Traversée du Temps, donc, qui est un film d'animation réalisé par Mamoru Hosoda, qui a donc été diffusé au Japon en juillet 2006, Donc qui est Mamoru Hosoda? Mamoru Hosoda, c'est un jeune réalisateur, il a 47 ans, donc on peut encore le considérer comme étant plutôt jeune.
Oui.
Dans ce secteur-là, en tout cas.
Qu'on connaît principalement, alors, pour deux films Digimon, pour un film One Piece, en l'occurrence le cinquième, le Baron de Matsuri. Il a failli faire le Château Ambulant en 2004, avant de vouloir laisser la place à Hayao Miyazaki. Il a ensuite fait Summer Wars, et plus récemment, Les Enfants Loups à Meiyuki. Donc c'est un auteur qui monte pas mal et qui fait toujours des œuvres de très grande qualité.
Donc on a eu Summer Wars en 2009, Les Enfants Loups en 2012, et donc La Trace du Temps en 2006.
Qui raconte l'histoire de Makoto.
De Kono Makoto. À noter aussi que Mamoru Hosoda a réalisé l'opening de Samurai Champloo, que vous connaissez un petit peu, donc Battle Cry, et donc beaucoup font de grands espoirs en Mamoru Hosoda comme étant peut-être le successeur spirituel de Hayao Miyazaki, qui maintenant arrête plus ou moins sa carrière. Donc La Traverse du Temps, qu'est-ce qu'on rencontre? Donc on rencontre une jeune fille, une jeune lycéenne, donc Kono Makoto, qui lors d'une de ses journées va avoir un petit accident et bizarrement
on a contact avec un train qui se passe mal, et en fait elle va retourner au moment où elle se réveille. Et au départ, elle comprend pas, puis en fait, elle va comprendre plus ou moins qu'elle peut retourner dans le temps un peu à volonté.
Parce qu'elle va se réveiller un petit peu comme quand on se réveille en sursaut d'un rêve dans lequel on tombe. C'est-à-dire, elle va pas trop comprendre ce qui lui arrive, et juste avoir des sueurs froides, et puis dire, dis donc, c'est bizarre, c'était quand même vachement réaliste comme rêve. Et elle va en garder le souvenir. Et donc, elle va se rendre compte au fur et à mesure, justement, qu'elle a acquis cette capacité de voyager dans le temps. Et donc, on va l'utiliser au début pour s'amuser. Elle va vraiment pouvoir sauter à travers le temps et donc parcourir un petit peu les époques, en profiter pour faire du karaoké pendant plusieurs heures d'affilée, en profiter pour pouvoir ne pas aller en cours à un certain moment. Elle va en profiter vraiment pour s'amuser. Et à un moment, elle va se rendre compte, justement, qu'elle a un temps limité. Elle va découvrir sur son bras une sorte de marque, une sorte de tatouage, un compteur qui se décrémente au fur et à mesure, qui lui donne le nombre de fois qui lui reste pour voyager dans le temps. Et donc
toute la première partie, en fait, ça va être la découverte de ses pouvoirs et son utilisation. La seconde partie, ça va être justement comment utiliser les derniers trucs qui restent, et justement elle va se rendre compte qu'il y a des gens dans son entourage qui sont peut-être un peu plus fantastiques qu'elle ne croit.
Voilà, elle va être confrontée à cette réalité qu'elle ne connaissait pas, à ce point de réalité qu'elle ne connaissait pas. Et alors que jusque-là elle n'avait fait que s'amuser, que profiter de ce pouvoir, elle va vite se rendre compte qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tout ça. Et donc, on va vraiment vivre tout le film avec Makoto. On ne va jamais la quitter une seule fois, une seule seconde. Tous ses voyages dans le temps, on les suit. Toutes les rencontres qu'elle fait, on les suit.
Et c'est loin d'être. Enfin, la réalisation permet de rendre ça très simple. En fait, on pourrait croire que fait tout le temps un genre de période, mais non, tout simple. C'est très simple. Il n'y a pas plusieurs réalités parallèles, etc. Non, à chaque fois, tu retournes dans le temps, tu retournes juste dans le temps, et ça se complexifie pas comme dans un retour vers le futur où d'un moment t'as 400 timelines. Non, ça reste très simple et très facile et très léger en général. C'est un film qui est finalement très tout public, très léger, très
public,
compréhensible.
Vraiment, on peut le regarder avec ses enfants. Les enfants adoreront, les parents adoreront également. C'est encore une fois, on vit avec Makoto, et comme il était dit tout à l'heure, donc par Nock notamment en parlant d'Aria, l'humeur de Makoto est très communicative, et donc quand elle va être heureuse, quand elle va découvrir ses pouvoirs, qu'elle va être très enjouée au début, on va être avec elle, on va être content, on va dire mais c'est super ce qui lui arrive. Et dès qu'elle va commencer à se rendre compte que en effet elle rencontre des personnes qui en savent un peu plus là-dessus, ou qu'elle va commencer justement à souffrir de ces rencontres, on va souffrir avec elle, et on va pas s'en rendre compte. Justement le travail aussi de la doubleuse de Makoto est très bien réussi, et donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille, qui est disponible chez nous, chez Kaze.
Chez Kaze en Blu-ray, DVD, dans toutes les éditions possibles et inimaginables qui soient possibles. Alors, il reste 4 minutes, 5 minutes. On va pas avoir vraiment le temps de vous laisser poser des questions, on est désolé. On pensait qu'on prendrait un peu moins de temps, mais c'est les aléas du direct. Très rapidement, les animés qu'on a hésité, beaucoup hésité à vous présenter. Alors, on a trois grands classiques, on va dire. Neon Genesis Evangelion, effectivement, mélange méca, psychologie, etc. Un grand classique, on va dire, de l'animation japonaise. Toujours assez excellent, même à voir 20 ans après, réédité dans des films, revu de Evangelion, assez géniaux. La mélancolie de Suzumiya, oui, qui commence comme un animé de lycée assez classique, avant qu'on se rende compte que tout le monde a des pouvoirs spéciaux, des voyages dans le temps, des gens qui viennent du futur, etc.
Extraterrestre,
et avec un très bon film.
Il y a un très bon film qui est uniquement voyage temporel, qui est en l'occurrence la disparition d'Haruhi Suzumiya. On a Gurren Lagann, qui est un animé, lui, de gros robots, qui utilise, va dire, tout l'héritage des choses comme Evangelion, comme Mazinger, comme Goldorak, comme Gundam, pour créer un univers assez épique. C'est très très récent, les années 2007. Encore pire, on aurait pu vous proposer Akebe 0048, où c'est les Akebe 48 qui combattent un univers fasciste dans l'espace, mais en fait c'est les disciples d'Akebe 48, parce que les fascistes ils veulent pas qu'ils fassent de la musique, ils font des idols, enfin bref, c'est assez compliqué, mais c'est très fun et très
et
sympathique.
Et elles affrontent des mechas avec des sabres laser qui sont en fait des micros.
C'est ça. Battle of Trouble, qui est de la comédie érotique avec des extraterrestres, ça date du Shonen Jump, c'est assez fun et... un peu olé olé. Et Strike Witches, alors ça c'est d'une uchronie un peu bizarre,
une uchronie de la Seconde Guerre mondiale très très sérieuse, mais qui a en tout cas un univers très très intéressant, mais
avec des sorcières qui se battent sans pantalon, hein, rappelons-le.
Voilà, mais qui a en tout cas une thématique science-fiction très 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 sympathique.
Donc voilà, on vous remercie d'avoir écouté. Si ce PPT sera à votre disposition demain sur le site de notre association forum-tali.fr, donc si vous voulez revoir tout ce qu'on a cité, s'il y a des noms que vous n'avez pas pu noter, etc., ça sera dessus. Le but est avant tout de vous faire découvrir des animés que vous ne connaissez peut-être pas et que vous avez envie de découvrir.
Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser, tout simplement.
Voilà. C'est ça.
Là, on sera à côté, sans souci pour vous.
Là, on sera dans le coin jusqu'à 17h. Donc voilà, on va vous laisser profiter maintenant du cosplay qui va être présenté par nos amis de la Brigade SOS et par le Festival Dystopial. On vous remercie à tous et une bonne fin de journée à vous.
Merci beaucoup à vous.
Merci.